Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez rêvé de devenir un sportif professionnel. Vous êtes finalement devenu un champion du lancement du disque. Grâce à un disque, justement, tout tourne aussi rond pour vous qu'une terre que vous traversez à longueur d'année. Bonjour Bob Sinclair.
Bonjour Jacques, bonjour à tous.
Eh ben, quelle joie de vous accueillir, parce qu'effectivement, vous êtes tout le temps autour du monde. Et puis en même temps, vous avez un parcours étonnant qui mérite d'être raconté, car on le connaît peu.
C'est adorable.
Alors, on va l'évoquer à travers des dates clés. Et la première que j'ai trouvée, c'est le 6 juin 1978. C'est un match de football France-Argentine à Buenos Aires. Et je crois que vous y êtes.
Exact. France-Argentine, on est 7 poussins à avoir été sponsorisés par la ville de Paris pour aller être la mascotte de l'équipe de France, et donc on est comme des fous, hein. Donc on participe aux entraînements, on fait des interviews, et on a deux places pour être sur le terrain avec l'équipe de France. Alors j'ai pris une photo avec l'équipe de France qui est donc sur le terrain avec le ballon, donc photo de l'équipe de France officielle. Je n'ai jamais retrouvé cette photo et j'ai demandé à beaucoup de journalistes qui n'ont pas retrouvé, mais voilà, donc le coach qui était là et moi, on est donc deux à être sur le... Et on voit ce match fabuleux, quoi.
Et qu'on a perdu 2-1.
À River Plate.
Oui, et on a perdu 2-1 à cause d'un pénalty contesté, je crois, et d'un but qu'on n'aurait jamais dû encaisser.
Ouais, on n'a pas eu de chance, éliminé au premier tour de cette Coupe du Monde, mais bon, avec les Michel Platini, c'est magnifique.
Et comment êtes-vous arrivé là? Comment avez-vous été sélectionné, Bob Sinclair?
Alors, je sais pas. Alors, moi, on n'était pas une grande équipe de poussins, mais en tout cas, voilà, le coach avait eu cette idée à proposer, donc sûrement ça, sûrement à la mairie de Paris, et puis nous ont donné l'argent pour aller là, pour faire un peu les mascottes, quoi.
Oui, mais à 9 ans, se retrouver en Argentine, c'est rare.
Oui, et c'était difficile à ce moment-là, parce que je crois que c'était la dictature en Argentine. Oui. Et on a 9 ans, on est excité, hein, parce qu'on est fan de foot, et puis on joue avec des petites équipes sur place. On avait été accueilli, je me souviens, par un docteur qui avait une énorme maison, donc c'était un bel événement.
Alors, vous n'avez pas vécu les coulisses de ce championnat du monde. Il faut savoir que les Bleus sont arrivés en Concorde, d'ailleurs, mais qu'il y a eu un problème avec Hidalgo, qui, quelques semaines plus tôt, a été enlevé sur une route de Gironde par des agresseurs qui voulaient absolument manifester contre la Coupe du Monde en Argentine à cause de la dictature.
D'accord.
Et il s'en est sorti par miracle, en tabassant ses agresseurs. C'est assez étonnant, sinon il n'aurait pas pu être là-bas.
D'accord.
Alors, le sport, c'est votre passion à l'époque
C'est ma grande passion, et toujours aujourd'hui.
Oui.
Beaucoup de petits garçons, on commence à jouer au football, et puis j'ai vu que j'avais pas beaucoup de talent, mais bon voilà, j'ai fait jusqu'à 14 ans, et puis après un peu de tennis, et c'est vrai que je rêvais, alors évidemment en 83, Yannick Noah gagne Roland-Garros, donc on était pas mal aussi au niveau du football, donc ça donnait beaucoup de rêves, mais j'avais pas de talent, malheureusement.
Alors vous êtes né à Bois-Colombes, je crois.
Je suis né à Paris, moi, ma sœur est née à Bois-Colombes.
Voilà, parce qu'on dit toujours, vous êtes né à Bois-Colombes, c'est Carlito qui est né à Bois-Colombes.
Carlito.
De McFly et Carlito.
Ah oui, d'accord.
Voilà.
Non, moi je suis né à la clinique des Bleuets, oui. À l'avenue avenue de la République, exactement comme Nikos,
oui.
à 3 jours d'intervalle.
Incroyable.
Ah oui, donc nos mamans étaient dans la même clinique.
Et vous êtes d'origine bretonne?
Oui, mes parents sont de Douarnenez.
Oui, et vous savez qu'à Douarnenez, c'est la ville dans laquelle a été inventé le Queen Mam, le gâteau avec du beurre.
D'accord, bon.
Alors vous grandissez dans un quartier qui ne ressemble pas à celui d'aujourd'hui, c'est le Marais.
Exactement. Le Marais était un quartier de bureaux à l'époque, il y a maintenant 50 ans, et c'était aussi le quartier du Trou des Halles, donc de Rungis, et c'est là où on vendait les légumes, la viande, etc. Il y avait beaucoup de rats, enfin c'était un quartier malfamé, quoi.
Oui, et en même temps, c'était un quartier qui a eu des marécages, d'ailleurs c'est pour ça qu'on l'appelait le Marais.
Exactement, et c'est le plus vieux quartier de Paris.
Et puis la musique tout de suite vous titille, je crois qu'à 18 mois déjà, vous faisiez tourner les disques sur la platine.
Alors ça c'est assez fou, parce que j'ai une série de photos qui a été prise par mon grand-père, donc j'avais 18 mois, et mon grand jeu, lui me disait, c'était de poser le 45 tours sur la platine en plastique, et puis de le retirer, puis de le poser, puis de le retirer, parce que je n'écoutais absolument pas la musique, c'était cette matière qui me plaisait, donc c'était assez fou, après j'ai oublié ça, et je suppose que le côté organique, voilà, cette alchimie avec cette matière m'a plu la première fois que je suis rentré dans un club à 18 ans, c'était au Palace, à Paris, et j'ai vu ce garçon manipuler des vinyles, et je suis tombé amoureux de la la façon dont ils jouaient la musique.
Et dans les années où vous avez grandi, la grande mode, c'est le Tepaz, qui est un électrophone que tous les jeunes s'offrent parce qu'il est pas cher. Et le Tepaz a été inventé par Marcel Tepaz, qui n'est autre que le grand-père de Jean-Michel Jarre.
D'accord.
Comme quoi, wow. Tout se rejoint. Alors, l'enfance, elle est tranquille et solitaire, Bob Sinclair.
Oui, oui, elle est faite de bah, un petit peu de déception, parce que je me donne à fond dans le sport et je vois que, bon, malheureusement, j'ai aucun talent. Donc, il y a une petite tristesse. Mais en même temps, 14 ans, j'écoute Radio Nova, j'écoute toutes les radios libres de l'époque. Et puis, il y a ces musiques qui arrivent, donc le funk, les débuts de la house, le rap, tout ça, il y a quelque chose qui se passe.
Oui, quelque chose qui se passe, mais en même temps, vous ne voyez pas l'avenir. Je crois que vous avez fait un BTS commercial.
Action commerciale, oui.
C'est quoi, ça?
Ça, c'est un peu le bac G de l'époque. Bon, bah, c'est un peu ce qu'on peut. Alors, c'est vrai qu'à 18 ans, je commence à sortir, et puis j'achète des disques, tout ça, donc j'ai mis la tête un petit peu ailleurs.
Oui.
Mais j'ai quand même eu le bac, et puis j'ai fini mon BTS. Bon,
pour faire quoi, au départ?
Bah, pour rien faire. Hein. Un bac plus 2, on fait pas grand-chose, voilà. Malheureusement, mais c'était aussi pour faire plaisir à mes parents, puis aussi pour finir un projet, le projet de l'école, voilà, pour aller au bout de quelque chose.
Sans savoir peut-être que ce que vous allez faire ensuite.
Non, mais ça m'a quand même servi, parce qu'il y avait des notions de comptabilité, des notions un petit peu commerciales.
Ouais.
Donc, quand on commence un label en 92-93 avec mon associé DJ Yellow, bah, il fallait avoir des notions, comment s'inscrire évidemment à la chambre de commerce, voilà, tout ça. Donc ça m'a servi quand même.
Et les vacances, je crois que vous pratiquez le tennis, mais au Club Med?
Et non, ça aussi, ça c'est du Wikipédia, on en a parlé plusieurs fois, non. Mais j'ai postulé pour être éducateur, en tout cas prof de tennis au Club Med, à un moment où vers 18 ans, j'avais pas encore, je sais pas, j'aimais bien la montagne, je faisais bien du ski, je jouais modestement au tennis, mais ça allait. En tout cas, je me suis dit, tiens, on va essayer d'aller vers les voyages, puis j'ai pas été accepté.
Bah, pourquoi?
Bah, j'avais pas le niveau de tennis requis, mais j'aurais pu postuler en tant que DJ, mais j'avais pas encore la collection de disques pour ça. Bon, voilà, il y a des choses qui se font pas, mais tout est pour le bien. Donc, on essaye d'aller vers de se créer des choix, et finalement, ils viennent pas, mais ça va venir tout seul.
Donc, le Palace que vous fréquentez, il faut savoir que le Palace est né parce qu'un jour, Yves Morouzi, grand journaliste, était à New York. Il découvre le Club 54.
Bien sûr.
Au retour, il en parle à Fabrice Aimer, qui est un de ses amis. Et c'est comme ça que va naître le Palace dans son ancien théâtre des années 30. Et le Palace, pour vous, c'est une découverte.
Ah, bah, c'est incroyable. C'est un lieu communautaire où tout le monde se rejoint. Alors, je découvre évidemment la scène gay, les mannequins, les plus riches aux tables, mais aussi les gens un peu lookés. Et tout le monde fait la fête ensemble. Et c'est l'arrivée de la house, du garage, de toutes ces nouvelles musiques électroniques qui arrivent d'Angleterre, des États-Unis. Il y a une effervescence musicale qui est extraordinaire. Et je suis sous le charme de cette musique et je m'intéresse à la façon dont on la crée.
Voilà. Et vous êtes toutes les nuits au Palace?
Je suis pas toutes les nuits parce que c'est en même temps, je suis à l'école. Hein.
Oui.
Donc, vendredi soir, samedi soir évidemment avec tous les potes, et puis dans la semaine il y a des grosses soirées, il y a les soirées de Sydney qui faisait donc l'émission de HIP HOP sur France 2 je crois,
oui, France 2,
à
oui.
L'époque, et lui il fait une soirée spéciale Prince au Bain Douche le lundi soir, donc il y a aussi les soirées du Globo avec Chabin, voilà, donc qui sur le thème hip-hop, il y a Dynasty qui joue aussi, qu'on essaie d'être un peu partout, et il y a une grosse effervescence sur Paris à ce moment-là, c'est extraordinaire ce qui se passe.
Oui, il y avait Grace Jones qui a créé La Vie en Rose là-bas.
Bien sûr.
Frédéric Mitterrand, un jour déguisé en femme, qui a fait la balançoire. C'était extraordinaire. Mais c'est vraiment une fête comme on ne peut plus imaginer.
C'est la fête à Paris. Évidemment, bon, je ne veux pas faire un peu de nostalgie, mais c'est vrai qu'à Paris, ce n'est plus ça. On a beaucoup de restrictions aujourd'hui.
Oui. Et alors, il y a aussi les bains à l'époque.
Bien sûr, les bains douches.
Vous y allez aussi. Les bains douches, c'est Coluche qui l'avait lancé au départ.
Oui, c'est Coluche, c'est aussi le DJ.
David Guetta.
Non. David vient bien après. Ouais. Bien après, c'est Claude Chal.
Claude Chal,
voilà, qui crée ça. Bon, c'est encore une fois une bande de copains. Et c'est toujours dans les bandes de copains qui créent les meilleurs endroits.
Oui, à l'époque d'ailleurs, Cathy Guetta dirige les bains. D'ailleurs,
ça c'est bien après, hein, c'est 94-95.
Oui, mais ouais. David Guetta, personne ne le connaît. Il est derrière sa femme, quand on va aux bains douches, on ne le croise pas.
Non, elle fait les relations publiques, et puis elle place son mari un peu partout. Lui fait les soirées de la scrim, il est plutôt sur une scène gay, lui est vraiment, il est quand même DJ, mais en tout cas, fait pas encore de production.
Et qu'est-ce qui vous fascine dans le DJ à l'époque?
C'est la façon dont... c'est cette communication qu'il y a entre la musique et le dance floor. C'est vraiment un échange d'énergie. Donc on échange de la musique, les gens nous renvoient une énergie corporelle et c'est comme ça pendant une discussion, un partage, pendant des heures. Nous, le DJ, on est là pour créer une hypnose, on crée un climat et qui fait que les gens voilà, se sentent bien. C'est la nuit.
Et en même temps, vous observez les DJ, ils commencent à vous connaître, vous allez à la
table. Moi, je passe mon monde. Alors j'ai vu les gens, comment ça se passait dans la nuit, à 18 ans, je vois que les gens boivent beaucoup d'alcool. Après, bon, il y a aussi de la drogue, il y a tout ça. Moi, je ne rentre absolument pas là-dedans. Je me mets directement près du DJ et je note chaque disque qui passe.
Ah bon ?
Ouais, je les note parce que c'est des disques qu'on n'entend pas à la radio. Donc il faut que. Donc je me fais un peu pote avec lui, enfin, tous les DJ à Paris. Et puis, le lendemain, je vais acheter les disques chez Chandisque ou à la Fnac. J'essaie de trouver des imports qui sont très très rares. Et c'est comme ça que je commence à me faire des cassettes pour mixer, pour aller à l'école.
Voilà. Et en même temps, effectivement, vous ne buvez pas, ce qui est une exception dans le monde de la nuit.
Oui, c'est vrai. C'est assez rare. Mais j'ai toujours gardé ce mode de vie de sportif professionnel où j'ai toujours eu cette vie saine. C'est un choix de vie.
Oui, mais il faut passer son temps à refuser justement de boire et de fumer parce qu'on vous propose tout.
On me propose beaucoup de choses et d'ailleurs ça me désociabilise par rapport à la vie de tous les jours. C'est-à-dire que je ne bois pas de vin, je ne bois pas tout ça et c'est vrai que j'ai très très peu d'amis. Et il y a une propagande qui est là, générale, dans notre monde où il faut boire, où il faut fumer, il faut faire même beaucoup plus pour être accepté par des clans, voilà, par des groupes. Mais je ne fais pas partie de ces gens-là, moi c'est pas grave.
On n'a pas besoin de fumer pour faire un tabac, vous l'avez démontré. Et puis on va voir vos paroles dans quelques instants avec une autre date, le 23 novembre 1973. A tout de suite sur Sud Radio avec Bob Sinclair.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Bob Sinclair. Nous évoquons votre parcours de DJ à travers des dates. Une date importante, mais qui ne vous concerne pas directement, le 23 novembre 1973, sortie de ce film dont voici la bande originale. Le magnifique, avec
oui,
Belmondo.
Musique de Claude Bolling.
Exactement.
Et bande originale du film magnifique. Et c'est vrai que ce film, alors évidemment, quand il est sorti, je ne l'ai pas vu, bien sûr, j'avais 4 ans. Mais la culture Belmondo est arrivée bien après, parce que c'était évidemment le héros du dimanche soir, la culture des années 80, pour moi. Et c'était l'anti-héros. Alors évidemment, en même temps, j'achetais des Marvel, bien sûr. Alors Spider-Man, les X-Men, etc. Bien sûr, j'étais à fond, mais Belmondo, c'était le héros de la vie de tous les jours. Il faisait partie de la famille.
Voilà. Et lorsqu'il s'agit de choisir un pseudonyme pour faire ce métier...
À ce moment-là, je cherche... Il y a la French Touch qui est là, et je commence à sampler du disco, alors que je ne viens pas de cette musique-là. Et puis, je découvre Céron. Alors, les pochettes de ce héros avec des moustaches. Donc, j'ai dit, je suis fan de James Bond, évidemment, du magnifique Jean-Paul Belmondo. Donc, j'essaie de trouver un héros un peu potache, un peu maladroit, un peu... Voilà, une espèce de parodie de James Bond. Et puis, je dis, tiens, ouais, le Bob Sinclair, ça sonne bien. Les Anglais, ils disent Sinclair, mais bon, alors, on va voir. Alors, donc, j'emprunte le nom. Je ne l'écris pas pareil, mais... Je monte un projet sous le nom de Bob Sinclair.
Alors, ce qui est étonnant, je me suis un peu renseigné, c'est l'orthographe du nom Sinclair qui n'est visible à aucun moment pendant le film, même pas sur les couvertures des livres montrés à l'écran ou dans le générique. Et sur la couverture du DVD, il y a écrit Bob Sinclair.
Ah oui ?
Oui.
D'accord.
Et ça n'a jamais existé.
D'accord.
On l'entend, mais on ne le voit pas.
Mais j'avais eu donc le fils de Philippe de Broca qui a réalisé le film, et il m'avait dit, c'était pas écrit pareil. C'était écrit Saint, plus loin Clark, C-L-A-R. Et lui, s'était inspiré d'un archéologue de la fin du 20e, la fin du 19e plutôt. Et voilà, donc il s'était inspiré de bouquins, je ne sais plus de qui exactement, mais il l'avait pris lui aussi de quelque part.
Et le film a été écrit par Philippe de Broca et Francis Weber, mais ils étaient en désaccord sur le personnage féminin à tel point que Weber a refusé de signer le scénario et qu'il n'y a pas de scénariste au générique.
D'accord. Jacqueline Bisset, qui interprète ce merveilleux personnage qui est Tatiana, et c'est fabuleux, quoi. Ce film est fabuleux.
On est bien d'accord.
Voilà.
Alors, simplement, pour un DJ, avoir un pseudo, c'est obligatoire, Bob Sinclair ?
Alors oui, parce que moi, Christophe Le Friand, ça faisait rêver personne. Ça. Je peux ouvrir une crêperie hein, à Montparnasse, mais c'est tout, en tant que breton. Mais j'aimais bien dans ce film aussi le parallèle que faisait François Merlin, il est le rôle de l'écrivain, avec il rêvait sa vie en tant que Bob Sinclair, un super-héros qui voyage dans le monde entier. Et moi, quand j'ai commencé, je ne faisais pas encore le DJ. Donc je rêvais ma vie en tant que Bob Sinclair. Donc c'était un peu pareil, il y avait ce parallèle assez drôle.
Alors, il se trouve que le métier de DJ a évolué comme le matériel. Vous avez vu au cours des années,
bien
le
sûr,
matériel évoluer.
La technologie fait que qu'aujourd'hui, la musique est accessible à tout le monde.
Mais en même temps, on a oublié que les premiers disc jockeys en France, d'abord, c'était en 1930, à la radio. À l'époque, il y avait des galettes de cire, et je ne sais pas si vous le savez, mais pour repérer la chanson, on mettait un bout de craie, on traçait un bout de craie sur la galette.
C'est marrant, parce que c'est revenu bien après, dans la culture hip-hop, ou au moment du recyclage des sons, enfin en tout cas du passe-passe, comme on disait, pour rallonger la rythmique pour que les rappeurs viennent dessus. C'est vrai, Grandmaster Flash a utilisé aussi cette méthode de la craie pour repérer le début du son.
À l'époque, c'était la seule façon. Et ensuite, les premiers disquaires, c'est un certain Paul Passini, qui a créé le whisky à gogo à Paris, où le whisky, on achetait sa bouteille, et il a créé les premiers disquaires qui passaient des 45 tours. C'était deux platines très très simples.
Mais le DJ, de toute façon, est là, et c'est lui qui faisait les tubes jusqu'à la fin des années, même, je pense, même dans les années 80, avec Marc Scalia, tous ces héros-là, c'est eux qui officiaient et qui étaient les héros des radios libres.
Et ce qui est étonnant, c'est qu'aujourd'hui, il y a une école de DJ à Nantes.
Il y en a plusieurs, même. L'UCPA.
Oui.
C'est pas nouveau, ça fait, je pense, j'entends tant parler depuis une quinzaine d'années, où ils forment tous les métiers de l'audiovisuel. Alors, ça peut être vidéo jockey, light jockey, disque jockey, animation. Alors, je connais pas exactement tout ce qu'ils font, mais c'est assez. Enfin, j'en entends beaucoup de bien.
Oui. On parle même des réseaux sociaux, on apprend à s'en servir.
Ah oui, bien sûr, aujourd'hui c'est inévitable.
Ça, petit à petit, vous l'avez appris aussi.
Je l'ai appris parce que je ne suis pas un enfant des réseaux sociaux et c'était pas évident au départ de partager son intimité en tant qu'artiste, mais il a fallu le faire.
Et le métier, vous l'avez appris sur le terrain?
Sur le tas.
Avec différents clubs?
Oui, alors c'était. Alors j'ai commencé à jouer dans les clubs au début des années 90, j'organisais mes soirées, etc. Mais c'était très difficile parce que. Les promoteurs, les organisateurs de soirées, même les relations publiques de clubs voulaient une musique assez commerciale. Et moi, je me suis vraiment tout de suite dirigé vers du rap, vers de l'acid jazz, de la soul, un petit peu de disco aussi. Mais c'était des choses vraiment plus pointues. Donc, je me suis un peu fermé au club à Paris pour monter mon label Yellow Productions en 1994.
Oui, mais justement, personne ne croyait aux musiques que vous défendez aujourd'hui à l'époque.
Ah non, personne. Personne. C'était vraiment une niche. Je fabriquais des vinyles en Belgique parce que c'était un petit peu moins cher. J'allais les distribuer de la main à la main à Londres. Et puis on a trouvé des grossistes ensuite pour, comme ça, pièce par pièce, les distribuer dans le monde entier. Et tous les DJ faisaient ça. Donc évidemment, ça a commencé aux États-Unis sur des petits labels. Et puis les majors, donc les grosses maisons de disques, sont arrivées. Et puis on fait des licences et on commençait à faire exploser tous ces artistes.
Voilà. Alors que vous étiez un pionnier dans le genre. Et surtout, il a fallu apprendre à faire ces mélanges de musique. Comment on apprend ça?
Moi, le métissage. Moi, ça a toujours été enfin, ce que j'aime faire. C'est-à-dire prendre des sonorités qui ne sont pas forcément destinées au dance floor, hein, aux discothèques, et puis les mélanger avec mes sons pour faire que les gens dansent dessus. Alors c'est pour ça que j'ai toujours évidemment découvert l'Afrique, la Jamaïque, le Brésil, etc. pour amener ces sonorités pour faire danser les gens.
Voilà. Mais justement, ces sons, le mélange des sons, c'est instinctif
ou... Moi, de toute façon, je ne suis pas musicien à la base. Ouais. Donc j'ai pris, il y avait le sampler, les boîtes à rythme, donc toutes ces nouvelles machines qui arrivaient, qui nous permettaient, nous, non-musiciens, de pouvoir recycler des sons.
Alors, il se trouve aussi que le métier n'était pas facile au début. D'abord, il n'y avait pas autant de DJ qu'aujourd'hui.
Mais ce n'était même pas un métier. De toute façon, moi, je pensais même pas un jour être encore avec vous aujourd'hui, Jacques, faire des interviews à 50 ans. Et même quand je dis 50 ans, j'en ai les poils, j'en ai les frissons parce que je me dis, c'est pas possible, moi je me vois pas vieillir parce que je suis dans les clubs, il y a toujours les mêmes. Alors les générations se succèdent, mais les jeunes sont là, donc j'ai l'impression de ne pas vieillir. C'est mon portrait de Dorian Gray, ou alors j'ai signer un pacte avec le diable.
Ou avec le bon Dieu qui vous protège.
Exactement.
Mais en même temps, il faut savoir que le métier de DJ n'était pas reconnu. Il n'y avait aucune retraite, il n'y avait aucun avantage social, il n'y avait rien à l'époque.
Toujours pas, hein. Oui. Évidemment, ça n'est pas reconnu. Alors la SACEM, bien sûr, a fait beaucoup de choses pour nous, et elle a vraiment officialisé ce statut de DJ. Aujourd'hui, on peut être rémunéré pour des sets. Évidemment, avec les plateformes de streaming aujourd'hui, comme iTunes, Deezer, donnent à la disposition des gens des mix de DJ. Bon, il y a pas mal de choses, ça se développe beaucoup maintenant depuis 20 ans. Je dirais qu'une date clé, ça a été aussi Love Generation, hein, 2005,
bien sûr,
où j'ai été un des premiers à passer à la télévision en tant que DJ en France, et puis non, ça s'est vraiment démocratisé.
Et au début, pour gagner votre vie, vous faites des petits métiers, je crois que vous avez vendu des chaussures?
Ouais, j'ai accessoires, des chaussures pour femmes, j'ai fait un petit peu de tout, hein, de la figuration à Canal+,
et il fallait... Chez AB Productions aussi.
Et chez AB Productions.
Dans des séries?
Alors, dans des séries, mais en tant que figurant. Mais il proposait 500 francs à l'époque. 500 francs, c'était quand même 80 euros.
Et on vous voit dans Hélène et les garçons. Dans
mais ce... Alors, je ne sais plus, le miel et les abeilles, de dos, quelque part. Non, j'ai pas, bien sûr, mais il fallait aller gratter des sous quand même, parce que acheter des disques, c'est un disque vinyle, un titre, c'était presque 10 euros. Donc, j'en avais besoin d'un certain nombre pour mixer.
Et puis, votre première fan qui a toujours cru en vous.
C'est maman.
C'est votre mère, oui.
Vous n'avez même pas besoin de le dire, c'est maman. Ben ouais, maman, c'est. Et pourtant, je lui ai cassé la tête. Dans ma chambre d'ado, j'avais tout mon son. Mon premier studio était dans ma chambre d'ado avec mes disques qui s'empilaient. Et puis, je faisais des boum-boum jusqu'à 2-3 heures du matin. Et elle me disait, mais c'est bizarre, tu travailles toujours sur la même chose depuis des mois. Toujours ce rythme. Il n'y a pas une musique qui va venir. Mais si, maman, t'inquiète pas, fais-moi confiance. Et elle a eu confiance, parce qu'elle savait très bien que j'étais très sérieux.
Oui, en même temps, votre maman, Bob Sinclair, a dit de vous qu'elle a cru en vous parce que vous n'étiez pas un enfant négatif ni dépressif.
Non, j'ai toujours été. Alors, c'est un peu inquiétant, parce que j'étais toujours solitaire. Mais c'est vrai, comme je ne buvais pas, etc., j'étais toujours dans ma chambre en train de travailler mes sons. Elle s'inquiétait un peu. J'avais quelques amis, mais je ne les voyais pas souvent. Mais elle avait confiance, parce que je n'étais pas du tout dans l'autodestruction, en tout cas dans cette espèce de... Voilà, toutes ces choses de la nuit qui viennent... Voilà.
Et en même temps, elle travaille avec vous ?
Et elle travaille toujours avec moi.
Après la retraite, vous lui avez dit, viens maman ?
À la retraite, elle m'a dit, oh, laisse-moi tranquille. Je dis, maman, qu'est-ce que tu vas finir en robe de chambre chez toi ? Non, je ne veux pas que tu sois sédentaire comme ça. Tu vas venir bosser avec moi, j'ai besoin de toi, parce qu'elle a toujours été assistante de direction. Donc je dis, j'ai besoin de toi. Voilà, tu vas me gérer le pognon. Moi, comme ça, j'ai la tête libre, je peux aller faire mes mix. Et elle est toujours là. Elle est là et elle gère au millimètre. Je peux dire qu'une maman, ça gère. Hein.
Et d'ailleurs, vous avez habité chez elle jusqu'à 25 ans.
Exactement. Un vieux garçon, un Tanguy.
Mais, oui, exactement. Mais en même temps, c'était une tranquillité pour travailler à côté.
Mais c'était pas. C'est-à-dire que j'avais pas tellement le choix. Je gagnais pas ma vie. Ça a mis 6, 7, 8 ans avant de dégager le moindre bénéfice. Parce que avec mon ami DJ Yellow, avec lequel j'ai monté le label, je ne pouvais pas me payer d'appartement. J'ai loué à un moment une petite boutique pour stocker les disques pour pouvoir les vendre. Mais c'était pas grave. Parce que. La passion était là.
Voilà. Et ça s'est arrangé ensuite. On en parle avec une autre date, le 20 janvier 2007. À tout de suite sur Sud Radio avec Bob Sinclair.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité Bob Sinclair.
Merci donc... Jacques de m'accueillir.
C'est une joie. Alors, on a parlé des temps difficiles et il s'est produit quelque chose.
Alors, ça n'a jamais été difficile, pardon. Oui. Excusez-moi de vous interrompre, mais on ne va pas dire que c'était difficile. Je ne gagnais pas d'argent, mais ce n'était pas grave. Hein. Je travaillais un petit peu à droite à gauche. J'avais 200 euros, 300 euros qui étaient là. C'est pas grave. Voilà, c'était la passion avant tout.
Voilà. Et la passion, elle se conclut par un succès le 20 janvier 2007. Ce soir-là, à Cannes, vous êtes nommé dans les Energy Awards. Ça vous en souvenez ?
Oui, ça je m'en souviens bien, parce que c'était la première fois en France où on crée une catégorie DJ. Et ce soir-là, David Guetta, Martin Solveig, je crois qu'il y avait Antoine Clamaran,
Laurent Wolf et David Vendetta.
Voilà, c'est-à-dire que c'était les 5 DJ qui étaient là en France et qui explosaient. Et j'ai reçu pour la première fois voilà ce trophée, c'était un de mes premiers trophées. Et c'était dingue, j'ai invité tout le monde à venir sur scène parce que c'était la victoire d'une scène. Hein, j'insiste toujours, moi je suis énormément dans le partage et dans la transmission, donc je veux qu'on fasse la fête ensemble, peut-être un peu timidité aussi.
Oui, mais en même temps, quand on entend son nom comme ça prononcé, qu'est-ce qu'on ressent, Bob Sinclair ?
C'est super, non, c'est magnifique d'avoir du succès dans sa passion.
Oui, et justement de la vivre jusqu'au bout. Alors, c'est le résultat d'un parcours qui a évolué avec les années et les rythmes.
Et oui, l'explosion de cette scène a fait naître des DJ stars. Donc, j'aime pas quand on dit « Oh, t'es une rock star ». Non, ça n'a rien à voir. Je suis très content de mon statut de DJ. Et maintenant, voilà. Alors, les DJ sont devenus des producteurs grâce à la technologie, mais aussi grâce à une nouvelle vision de la musique, des structures, des sons. Aujourd'hui, le son est devenu aussi important que la mélodie et le texte. Donc, le top 40 mondial est produit souvent par des gens qui ne sont pas à la base musiciens. Et donc, je suis très fier de ça.
Mais ce sont des vrais artistes, alors que souvent,
totalement.
Dans les maisons de disques, ce sont plus des comptables aujourd'hui.
Ah, je sais pas.
Oh, si, je vous assure. je me souviens de Brel qui m'a raconté un jour qu'en 62, il avait enregistré le plat pays et le comptable avait trouvé que l'enregistrement a coûté trop cher, ils ont viré Brel.
Ah, ils ont bien fait.
Ils ont bien fait.
Comme ça, ils sentaient déjà rien à l'époque, mais bon, c'est pas grave.
Alors, il faut savoir aussi que vous avez créé, Bob Sinclair, des projets musicaux. Qu'est-ce que c'est les projets musicaux ?
Quand j'ai créé Yellow Productions en 94, il n'y avait pas du tout la possibilité de créer un nom d'artiste et de voilà de voyager à travers le monde entier, en tout cas de mixer sous ce seul nom d'artiste. Ça n'existait pas, le concept n'existait pas. Donc je crée plusieurs projets. Donc Réminiscence Quartet, c'était un groupe acid jazz où j'ai découvert Salomé de Baya dans un cabaret à Paris chez Félix. Il y avait Mighty Bop, un projet plus jazz, plus trip hop sur une couleur anglaise. Et puis une musique de film, la Yellow 357, que j'inventais comme ça. Et puis, je produisais des artistes qui sont venus chez moi, dans ma chambre d'ado, Dimitri Framparis, Kid Loco, qui venait de son label Bondage, qui produisait les Berruriers Noirs dans une scène plus rock indépendante. Donc voilà, il y avait une scène française qui se créait, une espèce d'ébullition comme ça, et ça passait par Yellow Productions. Et c'est vrai qu'on a été l'un des premiers labels indépendants en France.
Et Yellow, c'était Alain Haut, un de vos copains.
C'était Alain Haut-Tuki et moi, mon pote.
Qui a aussi importé des musiques que personne ne connaissait
en
France.
Qui lui achetait des disques. Donc lui, il ne faisait pas de musique, mais il avait une grosse collection de disques dans laquelle je me servais pour sampler des sons, pour recycler.
Et on parlait à l'époque de la musique house, c'était tout à fait nouveau.
La musique house, alors, il y a deux scènes à ce moment-là, fin des années 80, début 90, il y a la scène rap qui arrive en France, qui vient un petit peu, je dirais, des banlieues, en tout cas qui est promu comme ça par les banlieues, et puis il y a la house et le disco, donc issu du disco, promue par la scène gay parisienne, donc avec le boy, avec le palace, avec les bains douches, etc. Donc moi je commence par le rap, et puis arrive d'Angleterre l'acid jazz, donc des instrumentaux sur lesquels on peut mettre des musiciens, il y a beaucoup de très bons musiciens en France, et puis d'autres tendances, et puis à un moment, voilà, vers 97-98, tout le monde se rejoint, et la musique électronique devient plus house, plus rapide, donc je la découvre à ce moment-là.
Et il y a The French Kiss aussi.
Ah bah ça c'était le nom Chris The French Kiss que m'avait donné Alain, parce que c'est important de trouver un nom DJ. Bon, c'était pas une idée incroyable, mais c'est vrai que j'ai toujours ressemblé plus à Popeye des Bronzés qu'à un DJ maladif.
Non, mais il faut savoir que The French Kiss, c'était un voilier conçu pour l'Amiral's Cast Cup de 87, pour l'équipe française de Marc Pajot, et ça a fait scandale aux États-Unis parce que le French Kiss aux États-Unis s'est roulé une pelle.
Ben oui, mais c'est surtout, pour moi, c'était le morceau emblématique de Lil Louis, un tube énorme à la fin des années 80, House.
Alors, ce qui est étonnant, Bob Sinclair, c'est que votre pseudo, il devait durer le temps d'un album, pas plus.
Exactement, j'ai construit le premier album Paradise, je dirais pas comme une compilation, mais j'ai invité mon pote Cutty B dedans qui a fait un titre, Get Into The Music, et puis Thomas Bangalter des Daft Punk qui a fait ce titre Gym Tonic. Bon, c'était une... J'invitais des gens comme ça, je dis, tiens, on va s'amuser un peu.
Gym Tonic, justement, on l'écoute. Il faut savoir, Bob Sinclair, que cette chanson, que ce morceau a fait scandale parce qu'au départ, il y avait la voix de Jane Fonda.
Exactement. C'est une époque où on recycle beaucoup, donc recycle emprunt de musique. Et c'est vrai qu'en 97, on sait ce que c'est que les samples, mais on ne connaît pas la façon un petit peu de demander l'autorisation aux auteurs-compositeurs pour utiliser ces chansons qui existaient déjà. Donc Jane Fonda, dont on a pris la voix. Elle gueule à un moment, elle dit bah attendez, je comprends pas. Elle faisait des disques, elle, de gym aussi dans les années 70, où elle posait sa voix sur des classiques, et puis voilà, elle vendait ça sur des vinyles. Et je me suis dit, tiens, on va imaginer ça, et puis au moment où elle appelle, sont ses avocats, il faut que vous retiriez ça, etc. Mais le disque allait sortir chez Warner, et elle était mariée avec le boss de Warner, c'est ça qui m'a un peu sauvé. Donc moi, j'ai donné à l'époque 70 000 francs à une œuvre caritative, voilà, parce qu'elle voulait dédommager. Bon, voilà. On a payé.
Il faut savoir qu'elle continue à faire de la gym. À 82 ans, elle pose dans les caméras en disant « Bonjour, je m'appelle Jane Fonda et je me remets à l'ordre du jour, ma méthode, pendant le confinement. » Et c'est une façon de faire passer un message de joie et un message politique en même temps.
Elle est fabuleuse. Si elle m'a attaqué, c'est pas grave.
Non, moi, je l'ai rencontrée il y a quelques années à Paris. Elle est extraordinairement jeune.
Ouais. Elle fait pas que du sport. Hein.
Non, bon. C'est autre chose.
Elle a aussi...
Alors, il faut savoir aussi que cette rencontre avec Thomas Bangalter, qui a changé votre vie, elle a eu lieu dans un avion, Bob Sinclair.
Exactement. Elle a eu lieu en 1998 dans un avion pour Miami, et à un moment où je lui dis, je l'avais croisé deux, trois fois, moi j'ai dit, tiens, ce serait bien si un jour tu sors un disque, je te fais un remix et tu me fais un remix. Ah ouais, ok, super, bah si t'as un truc à me donner, voilà. Et là, il est arrivé à Miami avec Stardust, et je dis, bah j'adore ce titre, laisse-moi faire un remix. Et je dis, bah moi, quand on arrive à Paris, je te donne des éléments de musique, et tu me feras un remix pour mon album.
Voilà. Il faut savoir que vous avez eu le privilège de le voir, parce que comme c'est un Daft Punk, pendant quelques années, il ne s'est jamais montré en public sans son casque.
Eh non, c'est vrai, c'est vrai. Et ils ont pris cette décision stratégique qui a été bénéfique pour eux. Comme ça, ils ne sont pas embêtés dans la rue.
Et ce qu'on ne sait pas non plus, c'est que le père de Thomas Bangalter, c'est Daniel Vanguard, qui a quand même travaillé avec Sheila, Ringo, Joe Dassin et la compagnie Créole.
Oui, c'était un très très gros producteur de musique française et de disco. Hein, les Gibson Brothers aussi. Non, grosse admiration pour Daniel Vanguard.
Et puis, vous participez à la Winter Music, qu'on connaît peu en France.
C'est un peu comme le Midem en France, mais spécialisé pour les DJ et pour la musique électronique. Ça se passe à Miami, voilà, où tous les labels se réunissent, tous les DJ, et on vient un petit peu écouter et tester les nouvelles tendances de l'été qui arrivent.
Et parmi les tendances, il y avait Gym Tonic, qui a été vraiment un succès mondial.
La même année, Stardust Gym Tonic, c'est vrai que Thomas Bangalter Daft Punk avait le son du moment. Quand il a mis ce son Gym Tonic dans mon album, ça a été évidemment un carton.
Et ça a été votre première tournée dans le monde ?
Alors après l'album Paradise, sur lequel il y a aussi My Only Love, il y a pas mal de titres qui ont bien marché. Carton énorme, donc un agent m'appelle et me dit, je ne sais pas ce que c'était qu'un agent, il me dit écoute, moi je m'occupe de toi, je connais les clubs dans le monde entier et je vais te faire tourner le monde entier. Donc 98-99, ça démarre.
Et ça a continué avec ce morceau.
2003.
Et au départ, c'est un titre de Sonny & Cher de 67.
Ah, le titre peut-être,
oui.
Mais le morceau est inédit, hein, vraiment. Et les morceaux est totalement. Il n'y a pas de sample, il n'y a rien du tout. Un morceau que j'ai fait avec Alain Wisniak, qui est le producteur de Céron à l'époque, donc un des musiciens de Céron.
Voilà. Et effectivement, le titre de cette chanson, c'était Sonny & Cher qui a fait le tour du monde dans les années 70.
Bien sûr, mais il y a eu beaucoup de titres sur le titre, beaucoup de chansons qui utilisent le titre The Beat Goes On.
Alors, il y a aussi, quand vous sortez des albums, quelque chose qui est nouveau, c'est le clip et le making-of. Ça n'existe pas à l'époque, Bob Sinclair.
Oh, si, le making-of existe depuis toujours.
Pour
regardez
le cinéma, mais pas
ce
dans
making-of
les...
Ce making-of des Stones, là, que j'adore, des Doors, là, où tourné par... Scorsese,
oui,
je crois.
Oui, mais pas dans les DVD, pas dans...
Après, maintenant, la technologie fait qu'on peut mettre à disposition des gens, bien sûr, avec le DVD, tous les making-of et les clips, plusieurs films.
Et vous rentrez comme ça dans un cycle infernal où il faut faire des morceaux...
Mais c'est pas un cycle infernal, c'est magnifique. Les gens s'intéressent à ma musique et le monde explose sous les rythmes de la musique électronique et de la French Touch.
Voilà, et notamment avec cet autre morceau. Love Generation,
ça... C'est un accident, je dirais, un accident de la vie extraordinaire, parce que à un moment où la French Touch s'éteint un petit peu, voilà, où je suis à la recherche de nouveaux sons, je vais à New York avec une grosse équipe, avec Alain Wisniak, avec qui je travaille toujours, donc un des musiciens de Céron, et j'ai dans le studio aussi, des Américains, et ce Jamaïcain, Gary Payne, qui participe à la tournée des Wailers, après la mort de Bob Marley, Gary Payne, qui avait exactement la même voix, tourne avec les Wailers depuis une dizaine d'années. Et puis, je lui dis, j'ai une balade acoustique comme ça, je sais pas ce que je vais en faire, mais c'est quatre accords de guitare acoustique, essaie de faire quelque chose dessus. Et au bout d'une heure, il revient avec des bribes de mélodie, et puis on est six dans le studio, et on se met à chanter avec lui, et ça donne naissance à Love Generation en quelques heures. Et après, le tube qu'on connaît.
Et toujours sans connaître la musique, c'est ça qui est... C'est instinctif chez vous.
C'est totalement instinctif. De toute façon, les meilleurs musiciens sont pas... Enfin, les meilleurs mélodistes ne sont pas forcément les meilleurs musiciens. Donc, c'est des mélodies qui viennent comme ça. Et avec, bien sûr, entouré de musiciens de grand talent, on arrive à faire des choses. Et après, moi, je fais toute la production, toute l'édition, et puis jusqu'au mix final.
Et puis, le grand public vous a découvert à travers ce morceau grâce à Star Academy.
Alors, quand j'ai fait le titre, j'ai sorti en vinyle, il commençait à avoir un petit buzz sur le titre, et Pascal Nègre, qui avait donc pris ce titre chez Universal, me dit « on a l'occasion de synchroniser ce titre avec cette émission de télé-réalité, Star Academy ». Alors j'ai tout de suite refusé, immédiatement, j'ai dit « moi je ne veux même pas en entendre parler, d'où je venais, après 10 ans de label underground, où personne n'écoutait ma musique, je dis « mais c'est pas possible, je ne veux pas faire ça ».
Et résultat, vous l'avez fait.
Et oui, parce qu'au bout d'un mois, il me rappelle, c'était en juillet, donc au mois d'août, il me dit quand même, réfléchis, parce que ne ferme pas la porte au succès, parce que c'est vrai qu'on peut ne pas être prêt, parce que ça peut abîmer les gens, parce que ce titre, ça va être numéro un, direct, fais-moi confiance. Et il avait raison.
Voilà. Et en même temps, ce qu'on ne sait pas, c'est que cette chanson est devenue le thème de la loterie Lotomax, le loto du Canada.
Au Canada, et l'hymne de la Coupe du Monde en 2006, Coupe du Monde de football en Allemagne. Bon, les gens s'approprient le titre, et puis ça, après, ça traverse les générations.
Ça vous surprend ?
Ça me surprend bien sûr, parce que quelque chose que j'ai créé dans mon studio, et puis après avec les petits accidents de rencontres de gens qui disent, qui posent une note, deux notes, trois notes, un guitariste, et ça donne naissance à un tube énorme. C'est fantastique. Je trouve ça génial. Et c'était bien de le faire après 10 ans de carrière, parce que j'avais la crédibilité pour le faire.
Voilà, et vous continuez aujourd'hui, on en parle à travers une autre date, le 21 juin 2021. À tout de suite sur Sud Radio avec Bob Sinclair.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Mine Vergès, qui publie donc le 10 novembre 2021, qui a publié ce livre, Ma vie de fil en aiguille, avec Patricia Kenouna qui vous a aidé, chez Bayard, les mémoires de la costumière des stars. Pourquoi avoir écrit un livre aujourd'hui, d'ailleurs, Mine Vergès? Pourquoi avoir décidé de raconter ce métier qu'on ne connaît pas?
Oh, je voulais pas, moi je voulais pas, non. Non, je voulais pas. Mais ça a été un cauchemar pour moi.
Pourquoi?
Ah, je déteste pas. Je n'aime pas parler de moi. Je n'aime pas. Oh non, ça a été. Alors, écoutez, heureusement, Patricia est quelqu'un de charmant. Elle a eu beaucoup, beaucoup de patience. J'ai pas été gentille avec elle.
Oui, mais enfin.
Mais ça a été un cauchemar.
Oui, mais en même temps, vous parlez très bien de vous. On le voit depuis le début de l'émission. Et vous avez plein de choses à raconter qui touchent les gens. Parce que finalement, oui, dans les coulisses, vous avez vu beaucoup de choses.
Ouais.
Et le livre s'appelle De fil en aiguille, Ma vie de fil en aiguille. Il faut savoir que de fil en aiguille, c'est une expression qui est apparue au XIIIe siècle et qui fait référence à une expression latine. Ça correspond bien sûr au domaine de la couture, mais pas seulement. Le fil peut être un courant d'eau ou de liquide qui passe. Vous voyez ?
C'est joli.
Voilà. Alors, vous évoquez dans ce livre des personnalités chères à votre cœur, car on a parlé du Moulin Rouge, d'autres lieux, mais il y a des gens fabuleux que vous avez rencontrés, des gens mythiques,
ouais,
et que vous connaissez mieux que nous tous. Par exemple, Juliette Gréco.
Absolument.
Juliette Gréco, vous l'avez rencontrée, c'était dur au départ, Mine Vergès.
Non. Je voulais faire ce métier pour Gérard Philippe, Yves Bontemps et Juliette Gréco.
Oui.
Et un jour, on me propose d'habiller Juliette Gréco. Il y a très longtemps. Je pense qu'on s'est connus dans les années 70 à peu près. Et donc, je vais chez elle, mais on me dit, elle n'est pas facile. Bon, j'arrive, bon, ça s'est très bien passé. Elle m'a demandé de l'habiller, on ne s'est jamais quitté.
Ouais.
Je lui ai fait toutes ses robes de scène depuis les années 60, toutes ses robes de scène jusqu'à la fin.
Alors, il se trouve qu'à l'époque, elle habitait avec
Piccoli.
Piccoli, qu'elle avait rencontré au 7 d'Or 66.
Ouais. Une grande histoire d'amour. Elle habitait à Piccoli, rue de Verneuil.
Voilà. Et dans cet appartement, un jour, s'était déroulée une scène mythique, la création de cette chanson.
Ne vous déplaise en dansant la javanaise. Nous aimions le temps d'une chanson.
Alors, il se trouve que dans cet appartement où vous avez donc travaillé et habillé Juliette Gréco, un soir, Gainsbourg vient, sort de sa poche ses paroles de cette chanson, l'interprète, et il y a quelques coupes de champagne, ils ont dansé ensemble, et c'est comme ça qu'est née cette chanson mythique. Et
ouais, c'est extraordinaire.
C'est vrai que Juliette Gréco aimait, elle avait le sens du public comme personne.
Absolument, oui.
Elle avait le trac aussi quelquefois en scène, non? Elle le montrait pas.
Elle le montrait pas, mais elle avait le trac. Elle avait le trac. Je me souviens quand elle a fait le Châtelet pour aller des coulisses jusqu'au micro. C'était terrible pour marcher, pour arriver au micro. Ouais. Elle avait beaucoup de trac.
Il y avait des rituels, je crois. Des rituels. On touchait le bras du pompier.
Oui, mais bon, elles ont toutes un peu ça.
Reggiani, lui, avant d'entrer en scène, il faisait une partie de poker. C'était son rituel.
Ah, ça, je savais pas.
Et quand il gagnait, ben, il savait que la soirée serait bonne. Alors, et c'est grâce à Juliette Gréco que vous avez rencontré une autre femme mythique, Mine Vergès, c'est Barbara.
Non, c'est pas grâce à Juliette Gréco, c'est grâce à Régine que j'ai connu Barbara. J'ai connu Barbara chez Régine.
D'accord. Parce que Régine était aussi une de vos
Régine
clients.
A été la première vedette que j'ai habillée, la première.
Oui, pour ses spectacles.
Et avec qui j'ai devenu copine. Je l'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup habillée, Régine, beaucoup.
C'est un personnage, Régine.
Ah oui.
Rien ne lui résiste.
Ah, rien.
Elle veut entrer quelque part, elle y va.
Ah oui, non, de toute manière, elle n'a pas de rien, Régine. Ça, ouais. Ouais. Enfin, la pauvre, elle est fatiguée.
Oui, enfin, elle est toujours parmi nous. Oui. Et donc, un jour, Barbara sonne à la porte.
Et Barbara sonne à la porte, donc Régine présente, et Barbara lui dit, je t'ai vu à la télé, t'avais une belle robe. Régine lui dit, c'est Mine qui m'a fait. Barbara me se retourne vers moi, elle me dit, je tiens à vous dire, vous avez beaucoup de talent. Et moi, je lui dis, merci madame. Vous n'avez pas à me remercier, si je vous dis, c'est que c'est vrai. Oh, elle m'a fait peur. Je lui dis, celle-là, je ne l'habillerai jamais, 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 je ne veux pas, je ne veux pas. Voilà. Et elle m'a demandé, j'ai refusé, je ne voulais pas, elle me faisait peur.
Et finalement, vous avez accepté, elle a insisté.
Et finalement, elle a insisté. Et après, Barbara, c'était une femme sublime, magnifique. Voilà, il y a un livre sur Barbara.
Oui, il y en a plein d'ailleurs.
Il y en a un autre encore. Bon.
Et il y a, vous appeliez ça, ses vêtements, sa peau de velours lumière.
Oui.
Parce qu'elle était toujours tout en noir.
Toujours, oui. En velours.
En velours noir. Ouais. C'était une tradition.
Et le velours, son costume ne devait pas voir le jour et personne ne devait toucher son costume.
Ah bon ?
Personne.
Mais pourquoi ?
Mais c'était terrible. Alors un jour, c'était en plein hiver, en province, alors il y avait le costume dans la loge, et il y a le producteur qui rentre, qui enlève son manteau, qui prend un set et qui met son manteau à côté du costume. Il s'est fait renvoyer de la loge, insulter. C'est parce que c'est comme ça, son costume, c'était sacré. Enfin, on ne pouvait pas toucher son costume. Enfin, à part les gens comme moi, quand on était en train de le faire, bien entendu. Mais personne ne devait toucher son costume, personne.
Et vous avez aussi remarqué, Vin Vergès, le trac de Barbara. C'était terrible, le trac, avant d'entrer en scène.
Oh, bah oui. Ah, je vais vous raconter une histoire. Quand elle a fait le Châtelet, enfin, elle a fait souvent, elle arrivait à 9h du matin. Pour chanter le soir. Et un jour, elle arrive à 9h15. Il y a le portier du Châtelet qui lui dit « Oh, Madame Barbara, vous allez être en retard ce soir.
» C'est extraordinaire. Oui, elle avait besoin de toute la journée pour...
À 9h du matin.
Qu'est-ce qu'elle faisait pendant la journée ?
Ah ben, elle était sur le plateau, dans son rocking chair, elle jouait du piano, elle regardait la salle. Et personne ne devait rentrer dans la salle. Hein. C'était son théâtre. Voilà, personne, c'est comme ça.
Et c'était à tel point qu'elle louait une chambre d'hôtel à côté du Châtelet.
Elle, oui, oui.
Et elle a même habité chez vous ?
Elle a habité chez moi quand elle faisait l'Olympia, ouais.
C'est, racontez-moi.
Ben, elle habitait donc au 5e, l'atelier était au 3e, et ben, elle venait à l'atelier. Alors, Barbara était quelqu'un de très très drôle. Enfin, il y avait les périodes tristes, puis les périodes gaies. Et quand il y avait les périodes gaies, elle était très drôle. Alors elle voulait coudre, enfin bon. Et un jour, j'habille à la Comédie Française. Alors je lui dis, il y a les gens du Français qui vont venir. Enfin, moi, je les reçois. Elle s'est fait un petit tablier blanc, un petit truc sur la tête. Puis elle allait ouvrir la porte. Tout le monde la reconnaissait. Mais c'est marrant. Ah non, je ne suis pas... Je suis la bonne. Elle a fait ça tout l'après-midi.
Voilà. Ça l'amusait beaucoup.
Eh oui, mais c'était quelqu'un de très drôle. Hein.
Et qui vivait dans le noir. Moi, je me souviens être allé chez elle, dans sa maison de Précis, sur Romain, ouais. Où elle vivait la nuit. Tout était noir chez
tout.
Elle.
Tout, ouais, ouais. Ah oui, le lit, tout, tout.
Alors, il y a une autre femme de la nuit que vous avez connue, c'est Hélène Martini, propriétaire des Folies Bergères. Ouais, personnage extraordinaire aussi.
Ah oui, absolument. Mais je n'ai jamais habillé elle. Mais j'ai beaucoup travaillé pour les Folies avec Michel Garmati.
Garmati était le décorateur, metteur en scène des Folies Bergères.
De tous les spectacles, les grands spectacles des Folies Bergères. Garmati, il a travaillé jusqu'à sa mort.
Oui, mais les derniers mois de sa vie, il était dans la salle tous les soirs.
Ah, tous les soirs, avec son gros bijou.
C'était un personnage incroyable. Il a commencé de façon étonnante. En 1932, ouais. Il va voir le directeur de l'époque, Paul Derval, qui ne le reçoit pas. Il a dessiné les costumes à la craie dans la rue. Il y a eu un attroupement. Derval est venu le voir et c'est comme ça qu'il a été engagé et qu'il a travaillé 50 ans au Moulin Rouge.
Au Folies Bergères. Ouais, ouais.
Et Hélène Martini.
C'était un personnage.
Oui, ben, c'est des gens qui ne vivaient que pour ce métier.
Ah oui, absolument. Absolument. Ouais.
Car finalement, quand on fait votre métier de costumière ou de la mise en scène, on ne vit que pour ce métier.
Ah, oui.
C'est-à-dire que bon, vous avez toujours vécu uniquement pour ça. C'est-à-dire que c'est une passion, c'est au-delà de la passion. On y pense jour et nuit.
C'est vraiment une passion. Oui. Et quand on fait un spectacle ou qu'on habille une chanteuse, c'est vraiment Il n'y a que ça qui compte.
Il n'y a, oui. a que ça qui compte. Ouais. Et Hélène Martini était un personnage étonnant. Vous avez un peu parlé avec elle ?
Oh, souvent. J'ai même dîné chez Raspoutine avec elle. Enfin, avec beaucoup de gens, avec Michel Guermati. Il y avait des caviars énormes, ça, je vois, toute ma vie. Et Guermati n'aimait pas le caviar. Et un jour, j'étais assise à côté de lui. Elle mangeait du caviar, mais il ne vous aimait. Bon, il me donnait une louche de caviar. Oh ! Bah, oui, c'était des personnages. Hein.
Et Hélène Martini, que j'ai souvent rencontrée au Rasputin, oui. vers 1h du oui. matin, quand oui. on avait une tisane, elle partait après, dans un taxi blindé, oui. dans oui. la nuit, à Pigalle, relever les compteurs de tous les bars dont elle était actionnaire.
Oui, oui, oui.
Et elle m'a dit un jour, si je racontais ma vie, personne n'y croirait. Ouais. Elle vous racontait sa vie de temps en temps ?
Non, pas du tout.
À personne ?
Pas du tout. Ah non, pas du tout.
C'était
toujours très élégante, coiffée en arrière, très chic,
et fréquente,
très froide.
Non. Et fréquentant le monde de la nuit et la pègre de la nuit.
Ah oui, complètement. Ah non, mais ça, je ne connais pas du tout.
Et il y avait un autre homme qui a beaucoup compté dans sa vie, c'est un grand décorateur, dont on a un peu oublié le nom, personnage fantastique, c'était Herté.
J'ai travaillé avec Herté.
Alors raconte, qui était Herté ?
C'était un monsieur magnifique. Alors ils ont fait un film... qui doit exister toujours, sur Herté, de la conception de la maquette à la réalisation, à la livraison du costume. Et donc, c'est moi qui faisais le costume, sauf Francine Berger. Donc, je suis allée chez Herté dans son atelier. Après, il est venu chez moi. Il expliquait tout Herté. Il faisait des costumes déments et magnifiques, mais il savait comment on fabriquait le costume. Il t'expliquait. Jusqu'à la fin, il est venu 3 jours tourner chez moi. Un jour, il était en bleu, tous les bijoux bleus. Un jour en violet, un jour en... Tout. Il était extraordinaire, monsieur Herté. C'était monsieur très calme, très... Ah, j'étais fascinée par cet homme.
Oui, et d'ailleurs,
en plus, il a un talent sublime.
Et il y avait tous ces tableaux qui étaient au Rasputin. Oui. Elle a fait classer ces tableaux et le Rasputin, ce qui a empêché le Rasputin de fermer quand on a refait tout le quartier autour. Intelligence d'Hélène Martini. Et puis Joséphine Becker, dont on parle beaucoup en ce moment, avec le Panthéon, là aussi, vous l'avez connue, vous avez travaillé sur cette dernière revue.
Ah, Joséphine, alors Joséphine, c'était un grand amour pour tous les gens du spectacle. On a fait le spectacle à Monte-Carlo.
En 74.
Le bal de la Croix-Rouge, oui, en août 74. Un spectacle dessiné par Monsieur Levasseur, maquette, costume, mise en scène. Ça a été un énorme, énorme succès. Ils ont voulu le reprendre à Paris, mais ils n'ont pas trouvé de théâtre. Et finalement, c'est Monsieur Bodson du
Bobineau
qui a dit « Ok, moi, je prends ». Et donc, il y a eu le spectacle à Bobineau. Le jour, il y a eu la grande première, le jour de la 12e.
Oui, tout à fait.
Et après, il y avait un grand repas au Bristol. Joséphine, à 3h du matin, est allée dire au revoir à tout le monde, merci. Ouais, magnifique. Le lendemain, la 13e, elle a joué. Moi, je n'y étais pas à la 13e. Il paraît qu'elle était un peu fatiguée, mais elle a joué, elle est rentrée chez elle, elle est morte.
C'est fou, hein.
C'est extraordinaire, même.
Et est-ce que vous pouvez imaginer qu'un jour, elle serait au Panthéon ?
Ah oui. Mais ça, je trouve ça génial pour cette femme qui était qui avait un cœur... Comme ça, c'était une grande artiste, une grande personne. Elle était magnifique. Et alors après, quand on se retrouvait avec tous les danseurs, tous les gens, on passait des nuits à parler de Joséphine. Ah oui, ça, c'était une grande, grande dame, grande rencontre.
Vous avez fait des rencontres extraordinaires,
finalement. Ah oui, la Joséphine, magnifique.
Ouais. Et elle travaillait énormément, en plus. Elle était inépuisable.
Et alors, tu racontes toujours cette histoire à 3h du matin à Monte-Carlo. La répétition, tous les danseurs écroulés par terre, et je vois Joséphine qui avait des kilos sur la tête, les talons hauts, tout ça, qui tenait un peu comme ça. Je prends une chaise, je dis Joséphine, asseyez-vous. Mine, je vais avoir 70 ans. Je ne me suis jamais assise dans un costume de scène. Je ne commencerai pas à 70 ans. Et petit à petit, il y avait tous les danseurs qui étaient allongés par terre. Petit à petit, tout le monde s'est levé, tout le monde a rangé son costume. Ça, c'était Joséphine.
Il y a beaucoup d'autres anecdotes dans ce livre que vous avez signé avec Patricia Canouna, Amine Vergès, Ma vie de fil en aiguille chez Bayard. Je recommande à celles et ceux qui nous écoutent et merci d'avoir vécu et raconté tout ça. avec brio.
Merci beaucoup. Merci. L'équipe... Bon, je reviens demain. Hein.
Bah, alors, à demain. En tout cas, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt. Restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.